les questions.
Alors pourquoi est-ce une miséricorde très grande et une audace de la part de Dieu de confier aux parents l'intelligence et l'amour de l'enfant ?
Étant donné l'amour de Dieu pour notre âme. Le philosophe ne parle pas du point de vue religieux en propre, mais il en parle quand même. Et il peut en parler quand même. Le christianisme est un phénomène que le philosophe peut regarder. Et comme philosophe, il ne croit pas à la divinité du Christ, mais comme homme, il dit que ça a créé un tel mouvement dans l'humanité qu'il y a quelque chose. Il y a les miracles, par exemple, il y a les prières, il y a des huiles saints. Ça existe, des témoins. Donc, il peut se rendre compte par là de l'amour de Dieu dans chaque création de l'âme. Puisque chaque création, puisque l'âme exige un acte propre, personnel de Dieu, il y a un amour particulier de Dieu pour chacun. Ça, je peux le dire, point de vue philosophique. Or, comme l'âme humaine est créée dans un corps extrêmement fragile, et que le développement du petit enfant est quelque chose de très délicat et de si important, puisqu'il s'agit de son salut. Il s'agit que dès le point de départ, il prenne des plis qui soient bons. On verra qu'au ciel, combien notre mère et nos parents ont joué un rôle important dans l'orientation de notre vie. Et donc, cette importance des parents pour l'orientation de notre vie, on peut déjà le constater maintenant, avec toutes les confidences qu'on peut avoir vis-à-vis des brigands ou vis-à-vis de ceux qui autour de nous mènent une vie belle, héroïque. Donc, on voit l'importance de l'éducation et de l'éducation première. Ça a une importance énorme. Des louves qui emportent petits gosses, le petit gosse ne se développe pas et devient semblable. Toujours différent, parce qu'il y a une âme. Il ne s'éveille pas. Il s'éveille très, très lentement. Donc, le rôle de l'éducation est extraordinairement important. Il y a, du point de vue de la génération et de l'éducation. Et quand on en parle, certains parents qui ont conscience de l'importance de l'éducation, pour eux, c'est là où l'influence humaine est la plus importante. Puisque la création, la nature est très déterminée, et donc l'atavisme joue, ça a un rôle très important, évidemment. Mais l'éducation, c'est la finalité. Donc le rôle est très très important. Et étant donné la puissance des éducateurs sur l'éveil de l'intelligence et de la volonté du petit enfant, que Dieu confie ça, alors que c'est un trésor pour Dieu. Chaque âme est un trésor pour Dieu. Puisque Jésus serait, je ne peux pas le dire en tant que philosophe, mais il peut quand même s'en servir comme quelque chose de grand et de beau qu'on raconte. Que Jésus serait mort pour chacun. Pour éduquer. Et ceci, pour le philosophe, c'est pour montrer la valeur de l'âme humaine, la valeur de l'orientation de l'âme humaine vers sa fin. Donc, Dieu ne néglige pas ça, il le sait, et pourtant il continue de confier à des parents indigne à des parents qui ne savent pas et qui ne comprennent pas leur importance de l'éducation première. Et Dieu continue de le... Vous pourriez dire, c'était une chose humaine, on n'en a pas pris assez conscience. Mais là, je ne peux pas dire ça. Dieu en a une conscience très aiguë. Est parfaite. Et cependant, Dieu continue. Et Dieu continue pour montrer la grandeur de l'âme humaine. On est capable, l'homme, le père et la mère, non seulement sont capables de la génération, de la procréation, mais ils ont un rôle essentiel pour l'éducation de l'enfant et Dieu leur confie le petit. Alors ça, c'est admirable de voir la confiance que Dieu fait à l'homme. Nous n'aurions jamais cette confiance-là. Jusque-là, c'est extraordinaire. Et ceci, c'est pour donner à l'homme et faire comprendre à l'homme combien Dieu lui fait confiance. Je crois que philosophiquement, c'est un lieu extrêmement important pour qu'on comprenne l'amour de Dieu pour l'homme, pour le père et la mère. La confiance qu'il leur fait.
Est-il possible au philosophe de préciser comment Dieu conduit l'intelligence et l'amour dans la créature?
Ça, c'est beaucoup plus difficile. Parce que le philosophe, il n'a pas la révélation. Déjà, au point de vue théologique, quand on a la tradition, on a la révélation et on a les confidences des saints, on voit que cette conduite de Dieu est extrêmement variée. Il n'y a pas un saint qui se ressemble. La manière dont Dieu a conduit, a éduqué notre intelligence et notre volonté. Dieu l'éduque, étant donné l'amour qu'il a pour notre intelligence et notre volonté. Dieu a un très grand amour pour notre intelligence capable de découvrir la vérité, pour notre cœur capable d'aimer. Ça, ce qui est remarquable, c'est que Dieu conduit l'homme de telle manière qu'il est comme absent. Vous voyez ce que je veux dire? Il conduit l'homme avec telle douceur qu'on s'en aperçoit pas. On ne s'aperçoit pas qu'on est soutenu toujours par l'amour de Dieu qui a créé notre âme. Une chose est certaine, c'est qu'il a créé notre âme. Une chose est certaine, c'est que actuellement, mon intelligence est capable de connaître et mon cœur est capable d'aimer. Et mon intelligence a eu tellement de peine à ne pas se laisser prendre par des choses extérieures. Et qu'on a intelligence a beaucoup de peine d'arriver à une intériorité. Et cette intériorité est doublée pour l'amour. Parce que la véritable intériorité vient de l'amour. Voilà la sollicitude extraordinaire de Dieu pour m'aider, me permettre d'avoir une intelligence qui s'éveille. Ceci est particulier lorsque mon intelligence cherche la vérité. Si mon intelligence ne cherche absolument pas la vérité, comme cela arrive, hélas, trop souvent, qu'on a une intelligence qui se contente de rester au stade des images, je crois alors que la conduite de Dieu est beaucoup moins forte. Au fond, pour chacun d'entre nous, au point de vue philosophique, la conduite de Dieu est différente et la conduite de Dieu est plus grande selon le désir qu'on a d'atteindre la vérité. Je dirais, le fait d'atteindre la vérité est une condition sine qua non pour les interventions de Dieu sur mon intelligence. Si je ne cherche absolument pas la vérité, au fond, je ne m'occupe pas de Dieu. Et quand je ne m'occupe pas du tout de Dieu, très facilement, je mets des obstacles. Même sans le vouloir expressément. Et donc, je diminue le concours normal de Dieu avec sa créature raisonnable. Alors que si j'ai un grand désir de vérité, j'invoque Dieu en lui demandant sa lumière. Et l'intervention de Dieu est beaucoup plus forte, beaucoup plus constante. Donc vous voyez, il y a toute la gamme. Et elle dépend de nous. C'est nous qui mesurons cela. Nous mesurons de quelle façon Dieu intervient, soutient, aide la recherche de la vérité. Mais cette recherche de la vérité qui est le bien même de mon intelligence, va être la condition sine qua non pour laisser Dieu agir librement. Parce que Dieu peut très bien me corriger par rapport à cette recherche de la vérité, en faisant que tel ou tel malheur, ah, je n'ai pas été prudent, j'ai manqué de clairvoyance. Bon, ça se fait automatique. Ça arrive, les corrections de Dieu. Et les corrections de Dieu arrivent dans ce sens qu'on a l'impression que Dieu ne s'occupe plus de nous. Or, Dieu continue de s'occuper de nous. Il s'occupe de nous en agissant, il s'occupe de nous en nous regardant et nous laissant faire. Exactement comme une mère agit en disant quelque chose en attendant, et une mère agit par le silence. Les corrections de nos mères ont été quelquefois beaucoup plus puissantes par le silence que parce qu'elles ont dit. Tout dépend si on a eu une mère d'une grande intériorité ou une mère très extérieure. Si on a eu une mère de très grande intériorité, les silences de notre mère dans l'éducation ont porté beaucoup plus que ce qu'elle a pu dire. Alors c'est la même chose pour Dieu, je dis. Alors, infiniment. Parce que Dieu a sur moi une conduite paternelle et maternelle. Et il me dirige, il me conduit de deux façons différentes, en agissant et quelquefois simplement en faisant sentir qu'il le voit, tout ce que je fais. Et que ce que je fais est bon, et donc attire Dieu, et ce que je fais est mauvais, l'éloigne. C'est pour ça que c'est très complexe, philosophiquement, de montrer cette espèce, cette aide de Dieu. Je peux affirmer qu'il existe, je peux affirmer que cette aide se fait dans des modalités très différentes, suivant le caractère qu'on a. Et Dieu tient compte de ça. Il tient compte du milieu dans lequel on est. Il tient compte du caractère de nos parents, de nos frères et sœurs, des professeurs. Dieu, à cause de sa miséricorde infinie, a une sollicitude d'autant plus grande que ceux qui devraient nous aider ne nous aident pas, nous laissent patauger, nous laissent faire des bêtises. C'est pour ça que c'est extrêmement, je crois qu'on ne peut pas préciser, mais simplement montrer que c'est une conduite maternelle et paternelle. Et si on dit maternelle et paternelle, c'est tout simplement pour qu'on insiste sur la sollicitude de Dieu. Dieu a une sollicitude beaucoup plus grande que je pense. Et philosophiquement, je peux le dire. Dieu a une action sur nous beaucoup plus forte. Et la sollicitude paternelle et maternelle, déjà, sont tellement différentes. Oui, nous avons une image de la conduite de Dieu sur nous. Par la sollicitude de notre père, la sollicitude de notre mère. Et je crois que là, on pourrait très bien voir comment Dieu éduque mon intelligence, le père. Comment Dieu éduque mon cœur, la mère. Il y a là des possibilités de reconnaître ça dans notre vie. je ne dis pas nécessairement Dieu l'a agi, non. Je peux le dire pour chaque fois dans ma vie, il y a eu quelque chose de très important. Il y a eu une décision importante à prendre. Je peux dire, au plan philosophique, que nécessairement, si on a prié Dieu, vous voyez, je crois que la sollicitude de Dieu comme père et comme mère est très dépendante de notre attitude. Notre attitude vient de Dieu, mais très dépendante de cela. Parce que la sollicitude de Dieu réclame que nous agissons avec lui. Que nous agissons pour lui. Donc, la prière permet à Dieu d'agir beaucoup plus sur nous. Au contraire, le manque de prière nous laisse comme un petit sauvage à l'égard de Dieu. Et Dieu a sur nous à l'égard de chacun d'entre nous, Dieu a un très grand respect. Si donc je ne prie pas du tout, ne demandant jamais à Dieu l'éclairage, la lumière, la force, d'aller jusqu'au bout, Dieu agira moins et agira beaucoup plus, parce que c'est déjà une grâce, une complicité avec Dieu, de lui demander par la prière d'être là. Et je crois que toute prière à ce point de vue-là est efficace. Parce que ça permet, ça ouvre la possibilité pour Dieu d'intervenir. Alors qu'au trompant, ça ferme la possibilité pour Dieu d'intervenir. Alors, oui, là, philosophiquement, je ne peux pas dire grand-chose. Je peux seulement affirmer ça. Et ça, je dois l'affirmer. Parce que je sais que Dieu a cette sollicitude. Il m'a créé avec une possibilité de bonheur. Et donc, Dieu va veiller à ce que ce bonheur puisse se réaliser. Déjà sur la terre et sur sous le ciel. Et je verrai bien que cette sollicitude que quelquefois cette sollicitude se termine par une action tellement douce, tellement faible, qu'on ne la voit pas, qu'on ne la sent plus. Quelquefois, au contraire, cette sollicitude de Dieu me saisit très profondément et me donne une conscience de sa présence. Au plan purement philosophique, hein. Parce qu'au plan purement philosophique, je peux affirmer que Dieu m'a créé dans un acte de sagesse et que dans cet acte de sagesse, Dieu ne peut pas abandonner l'âme humaine à aller là où elle veut. Créer mon âme en faisant et refuser cette sollicitude de la part de Dieu, ce serait méconnaître la miséricorde de Dieu. Ce serait méconnaître la sagesse de Dieu. Et ça, philosophiquement, je peux l'affirmer. Et je dois l'affirmer. autre chose et est-ce que je peux m'en apercevoir philosophiquement? Suis-je aveugle? Suis-je sourd à l'égard de l'action de Dieu sur moi? Je sais que je peux intellectuellement découvrir l'existence de Dieu. Et je découvre l'existence de Dieu par l'amitié. Donc, un Dieu amour, un Dieu plein de sollicitude. Mais je sais que l'action de Dieu sur moi, sur mon intelligence, sur mon cœur, est une action de quelqu'un qui est plus intime à moi-même que je suis intime à moi-même. C'est la parole de saint Augustin. Et ça, philosophiquement, il peut le dire. Donc Dieu est plus intime à mon intelligence que mon intelligence est intime à elle-même, consciente à elle-même. Et Dieu agit sur ma volonté d'une façon plus intelligente, plus profonde. Voilà. Je le sais, ça. Par le fait même, je reconnais que très souvent, je suis sourd par rapport aux interventions de Dieu. Je suis insensible par rapport à ses interventions. Mais ce n'est pas parce que je ne m'en aperçois pas. Parce que je ne le vois pas, c'est pas à cause de ça que ça n'existe pas. Ça existe nécessairement, étant donné la sagesse de Dieu. Si je n'affirme pas la sagesse de Dieu, et que tout acte de l'âme est un acte de sagesse, d'amour, personne n'a commandé à Dieu de faire ça. Mais Dieu, ayant décidé de créer une âme humaine, et décider de la conduire vers sa finalité. Là, je peux préciser le sens de cette conduite de Dieu. Je suis souvent très dur à découvrir cette finalité. Finalité de la vérité, finalité de l'amour. Aussi, très facilement, je me heurte à la conduite de Dieu parce que j'ai de la peine à comprendre son amour. Mais une fois que j'ai compris cette conduite de Dieu, que je suis plus attentif à cette conduite intelligente et aimante de Dieu, je comprends que Dieu me conduit. Si je conçois que cette conduite de Dieu est nécessairement très intelligente et très aimante, pleine de miséricorde, ça me permet de répondre à la conduite de Dieu et surtout de l'appeler. Et je répondrai dans la mesure où je m'aperçois que cette affaire très difficile s'est résolue. Cette peine très pénible s'est résolue. Je puis affirmer cette conduite de Dieu, mais je ne peux pas la détecter, parce que Dieu agit toujours sur moi, au-delà de ma conscience. Exactement comme son existence. Ça, je le sais. Donc, je sais combien je suis ingrat. bien j'ai de la peine à voir que Dieu a sur moi cette sollicitude. Je le sais. Et en le sachant, j'essaie de m'ouvrir davantage à cette sollicitude pour mieux connaître. Sachant cette sollicitude de Dieu sur moi, paternelle et maternelle, j'ai envie d'invoquer constamment Dieu dès qu'il y a un péril, dès qu'il y a une difficulté, je l'invoque. Et donc, je fais que Dieu est beaucoup plus présent à mon activité que si je ne l'invoquais pas. De sorte que je ne peux pas dire qu'il n'y a pas une conduite type pour chacun d'entre nous. Elle est différente. Et elle a un caractère plus ou moins intime, suivant notre désir. Dieu m'a créé dans un acte d'amour. Et m'a créé pour qu'il y ait une relation d'amitié avec lui, même au point de vue humain. De sorte que cette relation d'amour, je peux faire qu'elle s'augmente, je peux au contraire la restreindre. De sorte que cette conduite de Dieu sur moi reste toujours un mystère. Un mystère au point de vue humain, c'est-à-dire quelque chose qui me dépasse et que je ne peux pas préciser. Et ça, je crois que c'est très important de comprendre que lorsqu'il s'agit de la conduite de Dieu sur nous, il y a des points où on peut être sûr que Dieu intervient et on doit prier pour ça, mais on ne pourra jamais l'affirmer de façon absolue. Je peux dire que Dieu intervient dans ma vie beaucoup plus que ce que j'ai repéré, ce que j'ai vu, ce que je sens. Dieu intervient dans ma vie beaucoup plus. Aussi, à certains moments, je dois le remercier de cela pour éviter d'être un poids lourd, pour éviter d'être ingrat.
Il y avait une dernière question, mais vous avez déjà un petit peu répondu.
Oui.
La créature peut-elle être consciente de cette conduite divine indépendamment de la foi ?
Alors, non, voyez. Vous pouvez passer. Il y a là toute une gamme. On a rencontré dans notre vie, tu vois, j'espère. Vous rencontrerez dans votre vie des personnes qui cherchent Dieu. En France, peut-être moins, parce qu'on rencontre plutôt les deux extrêmes en France. Parce que la France est un pays d'extrême, pour ça, au point de vue religieux. En dehors de la France aussi, quand certaines personnes rencontraient Mère Teresa, de ne pas voir en elle comme une envoyée de Dieu. Et donc cela aidait beaucoup. Il y a un témoignage naturel qui se fait. que je crois, ce qu'on doit affirmer, c'est que Dieu agit sur moi beaucoup plus souvent que je ne le pense. Parce qu'il agit toujours avec une extraordinaire douceur. Et par le fait même, il agit dans le sens même de mes inclinations. Les inclinations naturelles bonnes. Ma nature est foncièrement bonne. Mais le philosophe ne peut pas parler des conséquences du péché originel. Mais le philosophe constate que très vite, l'enfant nie. L'enfant dit non. Quand l'enfant dit non, c'est pas nécessairement de Dieu, ça. Et c'est pas cela qui lui donnera le sens de la coopération avec Dieu. C'est plutôt l'inverse. Et comme la négation est quelque chose de très connaturel, c'est quelque chose de très connaturel et ce n'est pas profondément naturel. Hein. La question du péché originel, les conséquences du péché originel peuvent se sentir psychologiquement, humainement. Vous sentez que vous n'êtes pas totalement bon. De temps en temps, vous avez envie de donner une gifle. Un coup de pied. D'abord. Fous le camp. Vous êtes exaspéré. Et vous, si vous êtes chrétien, vous faites un effort de patience. Si vous n'êtes pas chrétien, tout dépend de la personne. Si c'est quelqu'un que vous aimez, vous supportez. Si c'est quelqu'un qui vous domine, vous supportez. Si c'est quelqu'un que vous pouvez dominer, vous le dominez. On peut avoir une très grande lucidité sur ses activités humaines et bien comprendre que on peut s'apercevoir qu'il y a en nous et autour de nous des arrêts qui ne sont pas compréhensibles. Qui paraissent naturels, qui paraissent traduire des choses tout à fait bonnes et qui sont pourtant des arrêts, quelque chose qui m'empêche d'aller jusqu'au bout de ma bonté naturelle. Ça, on peut s'en apercevoir. On s'en aperçoit beaucoup mieux comme chrétien, parce que au fond, la grâce chrétienne a mis une acuité plus profonde de mon intelligence et de ma volonté. Alors, je peux m'en apercevoir. Je peux m'apercevoir qu'il y a donc de temps en temps quelque chose qui vient barrer le chemin pour la bonté, pour la miséricorde, pour la patience, des choses qui viennent de l'intérieur, de l'extérieur aussi, mais de l'intérieur aussi. Et donc il y a en moi quelque chose qui n'est pas moi. Et on le dira, il y a en moi quelque chose qui n'est pas moi. Qui n'est pas ma volonté vraiment d'aimer, et quelque chose qui et ça se voit spécialement chez des personnes très très fatigués. Alors ils sont plus sensibles. Ça se perçoit plus facilement aussi, je crois, dans la vieillesse. Des choses qui vous arrêtent. Et quand on est jeune, en pleine euphorie, on a l'impression qu'on peut aller très loin. On sent beaucoup moins ce barrage. Et ce barrage n'est pas de nous. Mais donc conséquence de quelque chose de mystérieux. Mais on ne peut pas affirmer le péché originel, c'est évident. Au plan théologique, au point de vue de la foi, on peut l'affirmer, mais pas. Ce serait très intéressant, je ne crois pas que ça existe, mais de relever avec une conscience suffisamment nette tout ce qui peut en nous montrer les conséquences du péché originel. Qu'il y a en moi un autre homme. Qu'il y a en moi quelque chose qui n'est pas, qui est naturel en ce sens, qui est très profond en moi, mais qui, quand il jaillit de moi, est vraiment quelque chose d'extérieur. Ce serait dans quelle mesure les conséquences du péché originel peuvent être connues. Donc les limites à l'égard de ma nature qui est naturellement bonne, naturellement se penche vers des choses bonnes. La philanthropie, l'amour de l'autre pour l'autre est normale. Et certains êtres, c'est plus flagrant, c'est plus développé, et j'ai d'autres beaucoup moins développés. Alors la philanthropie, ce n'est pas du tout la présence du péché, de mon égoïsme. Mon égoïsme qui fait que je vois quelqu'un qui souffre à côté de moi, et que je ne veux pas entrer dans sa souffrance parce que ça me déloge. Donc je sens en moi un égoïsme, un égocentrisme qui m'empêche d'aider l'autre, m'empêche de le soutenir. Alors je peux me demander d'où vient ça. Ça veut dire, il y a en moi deux hommes. Et c'est vrai. Et cet autre, si je ne suis pas croyant, je dirais, c'est mon atavisme. Mon grand-père était comme ça. Parce que ordinairement, l'atavisme saute une génération. C'est très heureux. C'est mon grand-père qui était comme ça. Alors l'atavisme aurait mon dos. Et au fond, l'atavisme est lié aux conséquences du péché originel. Tout est sûr. Alors là, vraiment, c'est les limites de la philosophie. La présence de Dieu en moi. C'est pas directement cette présence, c'est plus d'une façon générale que il y a quelqu'un qui me soutient, qui m'aide. La joie profonde que j'ai dans une bonne action. Quand j'ai fait un acte héroïque, je suis joyeux. Et au fond, je suis joyeux parce que